السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في حلقه جديده من البودكاست ديال ستوديو 30، البرنامج اللي كنستضيفوا فيه صناع المحتوى والفنانين والناس اللي عزاز علينا باش نعرفوا كيفاش دازوا في الطريق ديالهم توصلوا للنجاح اللي هما فيه اليوم، واش من صعوبات تخطاو باش وصلوا للمستوى اللي هما فيهم اليوم. معنا اليوم فكاهي فكاهو
مهرج
فنان ضحكي جليل تجاني، مرحبا بك معنا.
ميرسي،
سنو في بليزير دو تغسوا دون لو بودكاست.
ميرسي اخويا، مو اسي.
نبداو من الاول، سيتادير من تابيو، اي اون ان بتي تروك اللي فين كنديرو بحال لابيو ديالك انستغرام كيسافيش على ليكران. طون نوم دوتيليزاتور
جليل تجاني.
كيل فوتو دو بروفيل اون فوا ميتر؟
جي مي اون فوتو كي مي ميتي ان بتي بي اون فالور، دونك
اون فوتو اون فوا تي دون.
نو نو نو، سي كي سبيس دو فوتو دو موا دان ان تياتر كوا، تي فو.
لو ستاتو كيس كو فوا ميتر؟
جو بونس اسي سامبل، اكتور كوميديان.
طون اج
34.
Une citation qui te représente.
J'aime bien la manière dont se termine Cyrano de Bergerac, où il parle du panache. C'est le dernier mot de...
Donc juste le panache?
Oui.
Ok.
Oui, le panache, oui.
Ton horoscope?
Je suis vierge, d'un point de vue cosmique.
Ton émoji favori?
Moi, je mets beaucoup d'émojis parce que j'ai toujours peur que les gens interprètent mal mes messages. Donc, j'ai l'impression que je me justifie en permanence en mettant des smileys.
Le rire jaune.
Je suis heureux. Je...
Tu sais qu'il peut être très, très mal interprété.
C'est vrai. Non, mais je mets celui avec les dents, justement.
Ah, ok, d'accord. Ouais. La localisation.
Rabat. Mais j'ai fait une petite tentative Kazaouia. Mais j'ai eu le problème de timing, en fait. J'ai loué un appartement un mois avant l'épidémie.
La pandémie.
Ouais, donc c'était pas le bon timing du tout.
J'ai tiré d'un set, comme on dit.
Un problème qui est assez récurrent dans mon existence.
Et un lien qu'on mettrait dans ta bio qui redirigerait les gens vers un site ou là un profil ou là une vidéo ou là quelque chose. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on mette comme lien?
Un lien vers les dernières dates de mon spectacle, les 4 dernières dates de jeux de société.
Jeux de société qui a pas mal tourné avant la pandémie, qui a dû s'arrêter justement, mais qu'on a le plaisir de retrouver sur scène. Et je sais que tu n'es pas très réseaux sociaux.
C'est de toute façon, il suffit d'aller sur ma page pour constater le.
On a un petit rituel ici.
Ouais.
Quand tu as le téléphone d'Alex, c'est d'aller une story. Tu as d'ailleurs ma Ness qui s'intéresse à ton actualité. Pour ne pas les nommer tes followers ou là, ta communauté.
Ce n'est pas ma communauté.
Ils ne t'appartiennent pas. Ça, j'ai compris.
Ce sont des gens indépendants et responsables.
Donc, qui ont choisi de cliquer à s'abonner.
Voilà,
les abonnés d'Yael, ton compte.
Voilà.
Et tu vas leur dire qu'ils ont la liberté de te poser la question qu'ils souhaitent pour qu'à la fin du tournage, on réponde à ces questions-là.
Je réalise cette vidéo sous la contrainte. Je suis avec Younes, on est chez Jaoujeb. Donc, je joue le jeu. Alors, Younes, c'est quoi? Je dois dire quoi?
Posez les questions que vous voulez.
Voilà.
Et on y répondra à la fin du tournage.
Voilà, donc si vous avez une question, posez-la et on y répond avant la fin du tournage.
Selon la légende, tu as commencé à faire rire à l'âge de 7 ans. C'est fascinant.
Tu as dit ça.
C'est écrit dans un des articles qui te concerne. Oui,
mais en fait, il n'y a pas de légende. Je pense que comme tous les gamins, hein, tu cherches à attirer le regard des grands cousins et t'as envie d'être le petit garçon cool quoi de la famille. Donc je m'amusais à faire des imitations en fait quand j'étais petit. J'imitais les amis de mes parents quand ils partaient ou quand ils étaient là. Et ouais, je crois que j'avais goûté à ce truc de faire rire très jeune. Et je me suis dit, je crois qu'il y a un côté en moi quand même, enfant, je me suis dit, c'est super ça.
J'aime tu bien aimais le regard.
J'aime bien.
Du coup, est-ce que en arrivant à l'âge adulte, tu savais toujours que tu voulais faire ça comme métier? Ou là, c'est en explorant tes options que tu t'es dit, ah, il y a quand même ce truc que j'aime bien, que j'aimerais bien faire.
Oui, bien sûr. Donc, si on reprend le cheminement des études, du lycée, bien sûr qu'il y a la constante de vouloir faire rire les amis et tout ça. Et tu te rends compte que, bon, voilà, il y a un truc, quoi. Il y a un truc, mais de là à en faire zama ton métier et tout ça, ça me semblait, chez Haja zama vraiment, beida elia. C'était une espèce de rêve caché, enfoui, tu vois. Voilà, j'ai commencé mes études, j'ai fait des études d'hôtellerie, d'art culinaire à Lyon, voilà. Parce que je me suis dit, bon, il y a moyen de voyager, d'apprendre des langues, tu vois. Et bien, une fois que tu as ton diplôme, qu'est-ce que tu fais?
Tu es allé au bout, tu as fini tes études.
Ça c'était important, même pas vis-à-vis de mon père qui a financé ses études. Il fallait faire gaffe. Donc je suis allé au bout. À un moment donné, tu te rends compte que tu fais que repousser en fait. Tu vois. Je me suis dit, bon, ben, je vais faire quoi maintenant? Et je savais que si je ne réglais pas cette histoire, de savoir si j'étais bon ou pas, et le seul moyen de le savoir, c'est d'y aller en fait. Tu vois.
Et donc, c'est là que tu décides d'aller à Paris.
Voilà, j'avais 23 ans, je me suis dit, bon, là, de toute façon, là, il faut que je sache ce qu'il en est. Est-ce qu'il y a quelque chose ou c'est moi qui délire? Donc je suis allé à Paris, voilà, et puis les études de théâtre. Donc hyper bien les études de théâtre, parce que déjà, humilité, parce que tu te rends compte que tu n'es pas le seul qui a un truc. qu'il y a plein de gens plus talentueux que toi, dans d'autres registres en plus. Il y a des gens qui sont hyper bons dans le drame. Donc voilà, c'est une époque hyper intéressante. Tu te cherches, tu essayes de toucher à différents codes. C'est très, très cool, en fait. L'école de théâtre, d'une manière générale, c'est magnifique.
Et donc, ça a pris 3 ans.
3 ans, oui.
Est-ce que quand tu fais cette formation, tu as en tête d'être comédien tout terrain, entre guillemets, ou l'aide de devenir comique?
C'est magnifique. C'est des belles questions, mec. C'est des très belles questions, vraiment. Au début, quand je suis arrivé, j'étais un peu, tu vois, dans ma tête, moi, je suis un petit comique. Moi. Je me suis pris des petites claques, en fait, tu vois, où tu te rends compte que, en fait, ce que toi, tu avais compris de la comédie, de ce qui était marrant, tu es très, très loin encore, tu vois. Donc, tu apprends. Tu as, en l'occurrence, une prof qui m'a poussé vers la tragédie aussi. Et au début, j'y allais vraiment en mode, vraiment, comme quand t'es petit et qu'on t'oblige à bouffer des haricots. Tu vois, j'étais, oh, putain, j'ai pas envie d'y aller et tout. Non, vraiment, vas-y, je te jure, il y a quelque chose à prendre. Et du coup, ça, c'est super expérience. En fait, c'est juste que tu apprends à exprimer d'autres parties de toi, en fait. Parce qu'en fait, c'est des masques, en fait. Tu vois, moi, je suis pas un comique et puis basta. Je suis un être humain. Et la plupart du temps, d'ailleurs, c'est pas un mythe, c'est vrai. Il y a un fond de tragédie, en fait, tu vois. Et en fait, quand tu le fais, je t'en parle et ça...
tu t'ouvres.
Non, c'est libérateur. Ouais. C'est vraiment libérateur. Et puis, tu assumes une partie, on va dire, plus globale de ta personnalité, qui n'est pas juste le comédien, le comique. C'est ça, c'est vraiment que ça m'a appris, les cours de théâtre.
Tu t'es ensuite essayé à la comédie, à l'écriture comique, en tout cas. C'était quand tu prenais tes cours ou là, tu as attendu de finir très sagement avant de te...
En fait, c'est vraiment quand j'ai fini, quoi. J'ai très vite compris que ça allait être compliqué, tout ce qui est casting, quand t'as pas de connaissances.
Parce que c'est ça la réalité après l'école, c'est qu'est-ce que je fais
en fait,
maintenant.
Bah oui, j'ai fini.
Tu vas courir les castings.
J'ai fait des castings, donc c'était, je te dis l'époque, hein, les castings, c'était vraiment profil maghrébin, casting en forêt, non rémunéré, mais casse-croûte offert. Au bout du 3e casting comme ça, tu commences à te dire, bon, c'est sympa les casse-croûtes, mais... faut peut-être passer à la vitesse supérieure, tu vois. Bien, c'était des bonnes expériences et tout ça, mais il y a peut-être un petit côté en moi où je me suis dit, bon, peut-être me créer ma propre chance.
L'humour, c'est quelque chose de très sérieux pour toi, donc ça demande vraiment beaucoup de travail. Avant d'en arriver à proposer un spectacle écrit de bout en bout, il y a eu beaucoup de recherches, il y a eu beaucoup de travail et de réflexion.
Honnêtement, j'ai beaucoup travaillé. Ouais. Je suis fier de ça. On passe beaucoup de temps à marcher, à faire des marches solitaires. En fait, il y a un va-et-vient entre de la solitude et beaucoup de haraj. Tu peux pas être que dans la solitude parce que sinon tu te frottes pas au réel. En même temps, à un moment donné, tu as besoin de décrocher du réel pour prendre le temps d'assimiler tout ce que tu as vu et tout. Mmh. Donc en fait, la plupart du temps, ça va partir d'un truc, soit d'un truc qui me dérange, tu vois, une attitude, et c'est le point de départ, c'est la première braise, on va dire, tu vois. Et à partir de là, je vais commencer à me mettre ça en bouche, tu vois. Parfois, je vais par exemple faire une marche à la forêt avec ce début de personnage. J'ai une phrase, je sais pas, qui est Mathieu Fier, tu vois. Et je vais répéter comme ça, Mathieu Fier, Mathieu Fier. Après, il y a une deuxième phrase qui va venir. Donc petit à petit, ouais, voilà, c'est des prises de notes. Et après, tu structures. Ça, c'est pour le travail du personnage, c'est pas le travail du stand-up, c'est différent. Les deux sont différents.
Voilà, c'était pourquoi ce choix, justement, ouais, de cette façon de faire qui est à l'opposé du stand-up, qui est pourtant quelque chose qui marche très bien aujourd'hui et pour lequel il y a un vrai marché, il y a une vraie industrie, qui peut être aussi plus simple, parce que t'as pas besoin d'avoir un spectacle de bout en bout d'une heure ou de plus, tu peux avoir des beats, des sketchs, tu peux t'essayer à la scène plus souvent. Pourquoi ce choix?
Moi, c'était un mouvement naturel pour moi. Le stand-up, c'est quelque chose dont j'avais peur. Moi encore, tu vois, on peut dire que je me cache un peu derrière les personnages et tout, tu vois. Bon, après, le travail est différent. Après, avec le recul, en travaillant mes personnages, je me suis dit, ah, mais en fait, j'aimerais bien avoir un bon petit passage de stand-up au début pour chauffer un petit peu les gens et tout, parce que le stand-up, c'est très efficace pour ça, tu vois, pour apprivoiser le public un petit peu. Donc maintenant, j'y arrive aussi un petit peu, tout en gardant ma spécialité des personnages.
Contrairement à ce qu'on pourrait penser, dans le spectacle, il y a beaucoup de Darija. Et c'est quelque chose que tu utilises comme une richesse dans ton spectacle.
Ouais, j'adore cette langue, j'adore Darija. Il y a une sonorité, il y a un rythme, il y a des expressions. Et le bonheur que ça a été pour moi de jouer les personnages que tu connais Darija, c'est extraordinaire. Tu imagines, tu fais un spectacle au Maroc qui parle de la société marocaine. Pour moi, assez à couler de source qu'il devait y avoir des personnages Darija, tu vois, c'était évident.
Ce premier spectacle, Jeu de société, il a eu une belle vie. Je parle au passé, parce que je sais que c'est les dernières dates. Tu le savais dès le départ que tu voulais le faire tourner 2 ans, mais tu n'avais pas anticipé qu'il y aurait une pandémie qui rajouterait 2 autres années.
On a fait une interview, toi et moi, il y a deux ans
pour annoncer la dernière date.
Et je te disais que j'annonçais les dernières dates. Et quelques jours jours après, il y a eu la fermeture des théâtres. Donc voilà, 2 ans quand même. C'était très frustrant parce que j'ai pas pu boucler. Quand je dis boucler, pour moi, c'est faire la captation du spectacle, le filmer convenablement et pouvoir le diffuser. Les gens me disent, mais pourquoi tu l'as pas filmé avant? Et en fait, tout simplement parce que pour filmer un spectacle convenablement avec des caméras et tout, c'est un peu cher. Donc en fait, tu le décides vraiment. Tu t'amuses pas à le faire tous les soirs. Donc là, on va pouvoir enfin le faire et je vais pouvoir enfin passer à autre
chose. En espérant
que
tu es toujours aussi bon qu'à l'époque. Après 2 ans de chômage technique.
Du frigo.
Mais justement, qu'est-ce qui s'est passé à les 2 ans?
Il y a eu de l'embouteillage digital sur les blagues sur le Covid. Moi, j'étais en mode non. J'avais pas spécialement envie d'en parler. J'ai vraiment été patient en fait pendant ces 2 ans. C'était pas facile, tu vois. C'était frustrant vu que je suis pas très porté sur Instagram et tout ça. Donc j'en ai profité pour écrire en fait. Je me suis dit bon, sois patient. Quand ça va réouvrir, tu vas pouvoir boucler ton spectacle et profites-en pour écrire. Donc j'en ai profité pour écrire et pour avancer sur des nouveaux sketchs.
Mais quand on est artiste professionnel, ce que tu es,
ouais.
On est au chômage technique pendant 2 ans. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on vit? Et qu'est-ce que ça nous dit du pays ou de l'industrie dans laquelle on vit? Enfin, quand on est dans cette industrie comme toi, l'industrie culturelle.
Bah déjà, je suis revenu m'installer chez mes parents pour commencer. Je pouvais plus payer.
Alors que tu venais de prendre un appartement
à
Casa.
Oui, c'était plus viable, quoi. Ça faisait des Kleenex.
Et des bonbons si tu veux. Ça.
Du chocolat.
Ça adoucit le propos.
Non, mais en fait, c'est plus deep que ce que j'imaginais ton interview. Je pensais qu'on allait déconner, mec.
Ça, c'est après.
C'est deep, man. Bah écoute, moi je suis rentré m'installer chez les parents, j'ai commencé à donner des cours de théâtre, pas par défaut, c'est quelque chose que j'adore faire, tu vois, super élève et tout, j'ai patienté et puis j'ai serré la ceinture, tout simplement. Je vais pas aborder la question des aides, de tout ça, parce que j'ai pas vraiment compris, pourtant on paye des impôts.
Manifestement tu en as pas profité.
Non.
D'accord. Tu as un peu répondu à la question déjà, mais on a bien compris que le digital n'était pas forcément la chose que tu...
Non.
Les applications, tout ça, tu c'est
non.
pas...
Non, pour être hyper honnête, il y a plein de gens qui le font de manière vraiment super et qui savent l'utiliser. Non, moi, je veux juste trouver ma manière à moi de... C'est plus mon style que j'ai pas encore trouvé sur ces réseaux, tout simplement, tu vois. Mais alors que sur scène, je me sens vraiment à la maison, tu vois.
Ouais. Alors, il y a 2 choses. Déjà, comme tu as dit, il y a des créateurs de contenu. Et c'est vrai que c'est drôle de te recevoir dans ce podcast qui est dédié aux créateurs de contenu. Tu n'es pas forcément le plus prolifique.
Non.
Mais justement, c'est ce
qu'on créateur de contenu scénique.
Scénique, voilà. Y a des gens qui n'existent, ou en tout cas qui ont démarré là-dedans et qui utilisent ça comme une arme, comme un outil hyper efficace pour atteindre tout plein de gens et pour se lancer dans le métier. Toi, tu as choisi la scène. C'est forcément un peu plus galère au départ, un peu au milieu et vers la fin aussi.
Ah oui.
Mais c'est ton choix. Il y a la deuxième chose qui est que cette pandémie a créé une occasion pour plein de monde de s'essayer à la chose pour exister. Toi, tu as choisi que dans ce brouhaha, tu allais rester au calme.
J'ai décidé de rester au calme et de continuer à écrire. J'ai fait ce métier vraiment pour prendre du plaisir. C'était une quête de bonheur pour moi et c'est le plus important pour moi. Tu vois, je veux être droit dans mes pompes.
Et t'es pas heureux sur le digital?
Je sentais pas forcément le truc. J'aime pas faire les choses dans la contrainte ou sans y prendre du plaisir. Tout ce que je fais sur scène, pour moi, je prends un plaisir incroyable à le faire. Donc il y a un truc où je me suis dit, bon... moi j'ai pas vraiment envie, donc tu sais quoi, mec, et puis voilà, et puis je ne sais trop bien que je ne sais trop bien, nous ne savons, vous ne savez que ce métier, c'est vraiment pas un sprint. Le métier d'humoriste, c'est difficile d'être dans la durée, c'est difficile de construire quelque chose dans le temps, il faut savoir être patient. Donc je pense que le digital se prête beaucoup au tout de suite,
au quick win,
le fameux quick win. Le quick win. Vous voulez créer du quick win? Parce qu'il y a le win et le quick win.
Qui est plus quick que quick le win.
Tu as les relations, on a fait home le quick win. Tu peux être dans le win ou le quick win. Quick win.
Donc tu n'es pas dans l'immédiateté et l'urgence de ces...
Non, en fait, ce que je pense aussi, c'est que les... Eh oh, tu m'écoutes? Ça va, je me barre.
Je peux faire des choses en même temps, enfin. C'est pas comme si je regardais mes messages. Je check mes prochaines questions. Enfin, il est incroyable, ce monsieur.
Non, mais pour te répondre...
Ce besoin du regard et de l'attention.
Attention, hein.
Il y a là qu'à chauffer.
Attention. Alors, qu'est-ce que je disais? vraiment Instagram, les réseaux sociaux, il y avait vraiment plein de trucs super, mais ils ont modifié aussi le rapport à la patience des consommateurs culturels, en fait, tu vois. On est vraiment dans l'instantanéité et dans le temps très très court, tu vois. Et donc je pense qu'ils ont même modifié le rapport à la création des créateurs de contenu. D'ailleurs, quand tu parles avec des créateurs de contenu aujourd'hui, ils te disent « Non, mais fais-nous un truc, 10 secondes, quick win !» Les gens te disent « Mais mec, les gens n'ont pas le temps, on veut un truc rapide, efficace, tac !» Ce qui est cool aussi dans le temps long, c'est que c'est un bonheur aussi de découvrir un truc dans le temps long, tu vois, tu as le temps de développer les choses, de rentrer en profondeur, et surtout dans l'humour, tu vois ce que je veux dire, mm-hmm. Tu as le temps de complexifier les choses. Et donc là, on est sur vraiment une qaib.
Alors que toi, tu es sur un plat de consistance.
On est sur une qaib humoristique, à consommer, tu vois, les gens...
À emporter
ouais, de manière,
sur
en
le
plus,
pouce,
en plus de manière,
littéralement.
En plus de manière complètement épileptique, frénétique. Tu vois. Et je dis ça, moi aussi, je me retrouve parfois à faire ça, tu vois. Et je me dis parfois, mais ouais, putain, mais qu'est-ce que... Tu vois. Alors que je ne suis pas un gros consommateur d'Instagram, mais je me rends compte... Avant, je lisais.
Est-ce que ce n'est pas juste un refus de la nouvelle norme pour toi de faire, d'avoir cette attitude et cette posture par rapport à cette nouvelle façon de faire? Parce que la tendance laisse penser que c'est comme ça dorénavant. Donc, de résister à ça ne fait que retarder quelque chose d'inévitable pour toi, bien sûr, finalement.
Bien sûr. Non. Encore une fois, je veux juste le faire à ma manière. Je ne suis pas le seul, hein, tu sais. Je vois mes collègues, que ce soit ici, en France, même aux États-Unis. Je suis un peu des gens sur Instagram. Parce qu'à un moment donné, tu te poses des questions. Tu dis, mais est-ce que c'est moi qui... En fait, non. Il y a des gens qui sont vraiment à l'aise avec ça et d'autres qui sont moins à l'aise. Qui sont plus à l'aise sur scène, tu vois.
C'est intéressant que tu évoques les gens en France, aux États-Unis ou ailleurs. Ouais. Ils ont ce que tu n'as pas ici.
Ouais.
C'est la chance de pouvoir jouer beaucoup plus fréquemment, de manière beaucoup plus régulière, dans beaucoup plus de salles, devant beaucoup plus de gens qui se déplacent et qui achètent des tickets. Ce qu'ici,
c'est vrai.
On n'a pas. Donc toi,
c'est un très bon point, ce que
en faisant ce choix de te couper du digital, tu te coupes probablement...
Non,
pas couper,
je
mais
me
en
coupe
tout cas pas.
D'ailleurs, allez sur ma page, là, j'ai posté des nouvelles vidéos.
J'ai été soufflé par d'abord la qualité des vidéos, bravo à la production, et par la qualité de l'humour qui est proposé, parce que je sais que c'est...
Voilà,
pas,
on fait pas beaucoup de choses, mais on les fait bien.
C'est très très bien, mais tu sais, je vais te dire, tu n'as pas fait du digital, tu as fait des vidéos que tu poses sur le digital, et c'est très différent.
Ben, je recommencerai pas.
Est-ce que tu comprends mon point?
Oui, je comprends ton point.
Peu d'artistes vont prendre le temps de faire des choses aussi bien écrites, aussi bien produites et qui prennent autant de temps à faire.
Oui.
Et c'est une qualité, c'est génial. Mais ça a les défauts de ces qualités. Tu vois ce que je veux dire?
Non, mais comme je te le disais tout à l'heure, c'est-à-dire que la manière dont sont constitués les formats, moi je le perçois aujourd'hui presque comme une espèce d'injonction. Une espèce d'injonction artistique, tu vois, c'est-à-dire qu'on t'impose des espèces de formats qui te conviennent pas. On essaie de te faire entrer dans des espèces de... C'est des gars à la Silicon Valley qui ont pensé des formats, des gens qui connaissent rien à l'humour. Il y a un côté, tu vois. Bien évidemment, c'est aussi une source de créativité. Il y a des gens qui arrivent...
La contrainte l'est en général.
Ouais, il y a des gens qui arrivent à le... Mais le cadre, il existe. Maintenant, moi, je ne suis pas contre. J'ai juste envie de trouver ma propre manière à moi d'exister dans ce cadre.
On a parlé de ces deux années de confinement et du fait que tu écrivais donc un nouveau spectacle. Ouais. Tu as refusé d'utiliser Covid parce que ça ne te plaisait pas manifestement. Alors, qu'est-ce qui t'a inspiré pendant ces deux ans de confinement?
Oh, beaucoup de choses. Moi, je joue beaucoup au tennis, en fait. Donc, je n'ai pas écrit un sketch sur le tennis. Mais en revanche, c'est qu'au Maroc, dans les clubs de tennis, tu as des gens qui viennent pour jouer au tennis et d'autres. Un verre et un revers, tu vois.
C'est comme les clubs de boules.
Oui, voilà, ça m'a inspiré. Ce lieu m'a...
D'accord.
Je me suis intéressé au coaching développement personnel.
Oui, ça c'est très,
à partir du moment où c'est devenu un phénomène de société. Donc vraiment, j'ai geeké sur ce sujet pendant quelques mois. Je me suis intéressé à la politique aussi, surtout quand il y avait les élections. Donc j'ai écrit un petit sketch là-dessus aussi. Je me suis intéressé à l'histoire du Maroc. J'ai écrit un sketch dans ce sens aussi. Première fois que j'écris un sketch sur l'histoire du Maroc, ça c'était un défi pour moi.
Il s'appelle comment le nouveau spectacle?
J'ai pas encore de titre, mais j'ai des idées de...
Tu veux vraiment boucler la boucle de jeu de société
avant d'entamer le rodage?
Oui, enfin, ou la nouvelle aventure, la nouvelle, enfin, oui, fermer le chapitre.
Oui,
si
oui,
tu veux.
Symboliquement, j'ai envie de boucler, forcément. Forcément, c'est désagréable d'avoir une histoire qui n'est pas finie. Quoi.
Et par rapport aux maîtres de l'humour marocain, il y en a. Ouais. Est-ce que toi, tu as des maîtres marocains que tu suis, qui t'inspirent que...
Oui, bien sûr. Comme tous les enfants, les adolescents, j'ai regardé le spectacle de Gad Elmaleh. Tant petit, tu vois, j'avais adoré, tu vois. Plus tard, après, dans l'adolescence, c'est l'humour de Jamel, tu vois, avec l'impro. Tu vois, vraiment, on dit que la phase collège, lycée, c'était moi, j'étais vraiment à fond sur Jamel. Un peu plus tard, j'ai découvert Hassel Fed et Hanan Fadeli aussi, avec son sketch là qui m'avait tué. Tu connais la Yakacom?
La Yakacom, bien sûr.
C'est un truc sur les agences de com. Ouais. Donc, j'avais beaucoup aimé ça.
Finalement, vous êtes plus un peu dans la même tradition.
J'ai dit Hanan Fadeli.
Hanan Fadeli est plus justement dans la tradition des personnages aussi. Ça, ce serait un mix intéressant d'ailleurs.
Hanan Fadeli, bientôt. Est-ce qu'on lui rase la tête? Non, pardon.
On lui met une grosse moustache, ce qu'elle a déjà fait. Ouais, donc, c'est pas compliqué de.
Il y a un monsieur un jour qui m'avait dit ça. Il m'a dit Anna Kunch Kanemchil Msrah, Yamet Hassel Fed Kanchandouz Zrba Fokarras. Et il est parti. Il m'a laissé avec cette information et il est parti.
On salue très très fort le Oustad Hassan qui est franchement, pour moi en tout cas, c'est le meilleur. Enfin, je t'aime beaucoup.
C'est sympa.
Mais Hassan, il y a quand même.
Non, mais genre, chacun c'est.
Je te souhaite.
Oui, Inch'Allah, comme on dit.
De quoi rient les Marocains?
Alors, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que les Marocains, il y a beaucoup de blagues où on est très porté sur la sexualité. Alors, des blagues d'une grande créativité sexuelle, impliquant généralement des animaux diverses et variées, dans des aventures rocambolesques. Non, mais c'est vrai.
Tu parles de le fil de
Ouais.
Mais c'est vrai, c'est peut-être le fait que ce soit tabou qui fait.
Exactement.
Que.
Exactement. Alors que.
Ça s'appelle l'anthropomorphisme.
C'est ça. Alors que dans d'autres contextes, au théâtre, ça ne passe pas. C'est le genre de truc. Mm. Alors que dans l'intimité, on est dans le. Rocco Siffredi à côté, c'est la Reine des Neiges, quoi. C'est. Pour ceux qui ne voient pas qui est cet individu, c'est un.
Ça vient pas de nulle part, ça vient de l'halqa, ça vient de la tradition orale. Ça vient
Oui. Il y a beaucoup de blagues sur la religion aussi, mais vraiment, ça va loin, tu vois. En fait, c'est vraiment le rapport à l'intimité. Dans l'intimité, on part vraiment sur des blagues, sur la religion, sur la sexualité, sur la politique, sur le pouvoir, même le pouvoir. Ça va loin, on le sait, on va pas se mentir, tu vois, entre nous, on est les mêmes là-dessus, sur les blagues, c'est ce qui nous réunit, tu vois. Mais dès qu'on est. Dans dans une enceinte, dans quelque chose de public, il y a une naisse et tout machin.
Et le wakar.
Voilà. Je pense que c'est lourd à porter. Tu vois, le rapport à Hshouma, le rapport à Haram, le rapport à Shkishou. C'est lourd à porter. Et le travail de l'humoriste, c'est de défaire et de les tensions, tu vois, d'arriver à venir et à. Parfois, il y en a qui viennent, ils te disent. C'est pas une question de tirsar l'hadra, tu vois ce que je veux dire, mais juste, il faut reconnaître que parfois, une petite tirsara l'hadra, c'est bien. Premièrement, il y a une dimension psychiquement libératrice, tu vois. D'ailleurs, quand tu es au volant et que tu vois, c'est libérateur. Et puis, ça aide aussi dans le rythme à ponctuer une vanne. Et il y a des gens, cachez-moi ce sein que je ne saurais voir, tu vois. Tu as l'impression, il y en a des gens, ils n'ont jamais entendu. Il joue au. Donc, bon, voilà. Il y a le mot à l'emporte-pièce qu'on utilise, mais un peu schizo, quoi, tu vois. Un peu schizo.
Donc, le Marocain est schizo, même dans l'humour qu'il conçoit.
Pas dire le Marocain. J'ai pas envie de faire de les grandes phrases, le Marocain est schizo, on dirait.
Ça allait être le titre du podcast, hein, tu viens de me casser le truc.
C'est vrai. Mais ouais, c'est peut-être un peu, ouais.
Des artistes comme Echo, qui font rire beaucoup de gens, ont apporté la dimension de l'halqa sur scène et dans le théâtre.
Ouais, c'est super.
Et d'ailleurs, tu vois des affiches de spectacle d'Echo qui dit « Echo délire avec le public ». C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de spectacle.
C'est très bien. Même moi, en tant que consommateur, que ce soit de films ou de spectacles d'humour, ça dépend de mon humeur, tu vois. Parfois, tu as envie de te mettre un Marvel, même si ce n'est pas ma tasse de thé, mais tu as envie de te mettre un divertissement. Et parfois, en humour, tu as juste envie de partir, te détendre, passer une bonne soirée. Et tu as juste besoin de rire.
Il y a une effervescence dans la musique, dans la création audiovisuelle, dans certains domaines culturels que j'ai l'impression de ne pas retrouver dans l'humour au Maroc. Daben Tsa, par exemple, il a Britain Soulek. Je connais la génération d'Yelk, d'Yel les humoristes. Tu pourrais me citer 3-4 noms d'Yel Nes li katatabron n'tam el jil d'Yelk?
Il y a Karim Duval, hein, qui est marocain, qui est né, qui a grandi à Fès, oui, mais qui est là, hein, et qui revient très souvent, et c'est mon pote. Il y a Miz aussi. Il y a. Mais attends.
Mais le fait que tu galères est déjà la réponse
non, mais
à ma question.
Tu parles, parce que là, attends, on va pas se mentir. À partir du moment où il y a une dimension francophone dans mon spectacle, je t'ai cité des gens qui avaient aussi
la langue francophone, la cible.
Voilà, donc moi, donc à partir du moment où je suis, on va dire, derijo francophone, je t'ai cité des artistes qui étaient aussi derijo francophone.
Okay.
Mais sinon, mec, tu as Bassou, tu as Yassar, tu as Rachid Rafek.
Toute la clique d'Yel Talis à l'époque.
Ouais, tu as Talis, tu as... Ouais, Hadoukouloum, tu vois.
Tous ceux qui sortent de stand-up, l'émission télé aussi.
Voilà. Ça, on parle des gens connus. Alors moi, j'aimerais parler de personnes, par exemple, qu'on ne connaît pas. Il y a des gens très talentueux parce qu'ils n'ont pas encore le truc du digital et des super comédiens. Est-ce que tu as vu le garçon qui est dans le teaser que j'ai fait? Un garçon qui s'appelle Smaïl Alaoui, qui est sorti de l'Isadak.
Je le connais tellement bien qu'il a travaillé chez Jaoulab.
Oh ouais, bah tu vois, Smaïl Alaoui, c'est un mec qui est hyper talentueux, qui a un timing comique hors du commun, tu vois. Il a, vraiment. Ça, c'est mes amis, c'est des gens que je respecte artistiquement, tu vois. On les connaît pas, tu vois, pas suffisamment. Mais bien évidemment... Voilà, on va pas comparer à la France ou à la Belgique. Il faudrait un comedy club qui cartonne à Casa, tu vois. Il faudrait un comedy club qui cartonne à Casa, que tous les gens qui passent sur Instagram, s'ils le veulent, qui viennent aussi sur scène, qui aient plus de collaboration. Je crois que les rappeurs font plus de featuring entre eux que les humoristes, tu vois. C'est dommage.
Bref.
J'adore. Bon, je vais rester avec toi, mais quoi, là, je kiffe.
Frache Jadid, Akhoya, Jalil.
Jadid. Fais quelque chose, sinon les gens vont t'oublier. C'est une phrase que j'ai entendue, mon ami.
Ça peut terroriser un artiste, ça.
Au début, tu dis, mais les gens vont oublier. Après, à un moment donné, tu te dis, bon, soit. Je te jure, et ça te détend, en fait. Ouais, j'aime pas vivre avec l'espèce de truc de... créé dans la,
mais
dans la contrainte.
Mais tu es aussi...
C'est une aventure spirituelle, le métier. Wahakallah, je te parle très sérieusement.
Je pense que vous êtes très, très rare à le vivre comme ça.
Wahakallah, c'est une aventure spirituelle parce que tu apprends énormément sur ton orgueil, sur ton rapport à te faire aimer des autres, les gens disparaître, être un jour
je
dans la lumière.
Je vais te
poser
la question différemment. Tu vois ce que je veux dire, tu es un producteur maintenant.
Oui.
Et il te dit, je dois rentrer de l'argent avec toi. Et il te dit, le prochain spectacle, il est pour quand?
Non. Mais moi... De toute façon, on n'a pas ce rapport-là parce qu'on a un rapport très amical et que le producteur aussi respecte le rythme de l'artiste. Tu vois, l'objectif, ce n'est pas de le presser comme un citron. Moi, j'aimerais commencer le rodage des nouveaux sketchs. Je ne vais pas parler de nouveaux spectacles parce que je n'ai pas encore la structure, mais j'ai juste plein de bouts, tu vois, que j'ai besoin de mettre ensemble, de trouver le liant. Pas le liant. Le liant. La rentrée, en fait. La rentrée prochaine, j'ai envie de me trouver un petit théâtre.
Rendez-vous est pris.
Ouais, la rentrée prochaine, on va se trouver un petit théâtre, les amis. Rabat, Casa. Darbouazza aussi, il y a un théâtre très sympa, ce mec. On va se trouver un petit théâtre et on va faire du rodage. Et là, ce serait très intéressant de collaborer aussi avec des autres humoristes. Parce que c'est ce qui se fait en France aussi. Tu vois, par exemple, quand il faut roder un spectacle, tu ne peux pas venir faire une heure d'un coup, tu vois. Surtout au début. C'est bien de faire un quart d'heure, après tu fais 30 minutes, après tu fais 40. Tu
as radié. On se passe la main.
Voilà, et en plus c'est sympa, même pour le public, bah c'est sympa parce que ça leur permet de voir différents humoristes la même soirée, tu vois.
On passe à la deuxième partie de l'émission. Bon, on peut pas ignorer le fait que tu sois de Rabat. Ça, c'est pas ta faute. On est à Casa.
Ouais.
Et on va jouer le match Casa-Rabat. D'accord.
Alors tu sais, moi je suis très critique aussi. Donc,
non, mais j'ai envie de savoir
critique
ton
envers
avis.
Les deux, tu vois.
J'ai envie de connaître
les
ton
deux,
avis.
Parfois, ils me gavent. Donc.
Alors, pour sortir et faire la fête, Casa ou Rabat?
Ah, Rabat. Rabat, le nightlife à Rabat, c'est incroyable. On est sur du Las Vegas là. Juste te dire un petit truc là-dessus. J'ai croisé un voisin dernièrement. Si il m'écoute, hein. J'ai croisé un voisin. Il me dit, tu sais, les cadres de l'audiovisuel, et je voulais faire ma promo. Je lui dis, vous savez, là, je joue au théâtre le 9 avril, au théâtre Mohamed V. Venez. Il m'a dit, cadres de l'audiovisuel, Bellil.
Le mal fait, là,
écoute-le. Tu sais ce qu'il m'a répondu, je te jure. Il m'a dit, ah, moi, je sors pas le soir. Et il est parti.
Pour le shopping
Paris.
Pour marcher dans la rue
Casa.
Ah, okay.
Moi, d'un point de vue inspiration, Casa.
Et ben justement, pour l'inspiration, c'est Casa.
Ouais. Pour la rue, le côté urbain, j'aime bien le côté urbain à Casa. En tout cas, d'un point de vue humoristique, moi, il faut savoir que la première fois que j'ai fait mon spectacle, j'allais jouer à Casa. Le jour du spectacle, Taht Fredous. C'est une belle aventure qui commençait pour moi.
Pour manger
Casa. Beaucoup plus de choix.
Pour rouler tranquille.
Casa extraordinaire. Le trafic.
Pour travailler.
pour travailler à Rabat.
Pour se poser tranquillement dans un parc avec, avec son ordinateur.
C'est le travail de tout le monde, ça. C'est...
Non, mais c'est mon travail, tu oui. vois. Mais pour travailler, quand t'es consultant, ouais, casa, clairement. C'est...
Pour passer un week-end ?
Si tu veux un petit week-end en famille, sympa, à Rabat, il y a plein de trucs sympas. Si tu veux faire un week-end où tu sors, bah, plus casa, en fait, ça dépend ce que tu cherches.
Pour aller au stade ?
Au stade, pour te dire la vérité, moi, je fréquente pas beaucoup le stade de foot. Ça fait très longtemps que je suis pas. La dernière fois, j'étais à terrain Moulay Abdullah. Je me rappelle très bien, il y avait Chmar qui jouait. Il avait raté.
Ah oui, ça date quand même.
Il avait raté une passe.
On parle de 2006, là, je crois, ou quelque chose longtemps. Comme ça.
Et il y avait un spectateur qui l'avait insulté. Il lui avait dit « Allah yatak, fais de la wesh. »
Et enfin, pour jouer son spectacle.
Alors, c'est particulier parce que je viens de Rabat. Donc, à Rabat, ils font du bruit aussi parce que c'est la famille, tu vois. Il y a les amis et tout. Donc, le public est chaud. Mais c'est vrai que Casa, c'est chaud, quoi. Attention, Paris aussi, la communauté marocaine à Paris. J'ai joué à Paris. Parce qu'à Paris, ce qui a joué en ma faveur, c'est que le Maghreb mouhichi le Maghreb. Donc, tu viens sur scène, tu leur dis juste
Salam
alaikum. Salam. Même pas salam, tu fais juste comme ça. Salam. Salam. Allez. Tu vois, ils deviennent complètement hystériques.
Tu le dis salam, salam.
Donc, c'est ça, quand tu rentres dans les sketchs, déjà là, ils deviennent hystériques. C'est magnifique.
Je vais tenter un questionnaire dont je ne suis pas certain. Je vais voir si tu vas m'aider ou pas. Tu parles du Maroc comme un des meilleurs terrains de jeu pour un humoriste, source d'inspiration. J'ai fait un peu le tour des news. J'ai trouvé des choses un peu rigolotes, tu vois. Et je vais te donner les news et tu vas me dire si elles sont vraies ou là si elles sont fausses.
Vas-y.
Une femme accouche à l'aéroport de Casablanca.
Oui, c'est crédible, c'est vrai ça.
C'est crédible, c'est effectivement vrai. C'était une voyageuse, une passagère en provenance de Bamako qui était de passage à l'aéroport Mohamed V.
D'accord.
Elle a accouché là-bas. Et l'aéroport Mohamed V a tweeté là-dessus pour
ça l'annoncer. Ça s'est bien passé. Et ils l'ont appelé comment ?
Terminal 1.
Mohamed. Terminal 1.
Est-ce que ça t'arrive de prendre le train ?
Ouais, de temps en temps, Rabat-Casa, ouais.
Rabat-Casa, bah justement, est-ce que tu savais que le record du trajet le plus long entre Rabat et Casa est de 11h35
C'est vrai ça ?
Est-ce que c'est vrai ou faux ?
11h, combien tu as dit ?
35 minutes.
Non, il ne faut pas exagérer.
On n'était pas loin, le vrai record est de 10h.
Non. Il y a eu du retard, mais...
Bah, si tu arrives à douter, mec, c'est déjà clair.
Moi, j'avais assisté à une scène, et je te jure, mec, c'était des touristes japonais qui étaient là-bas, et il y avait un monsieur qui leur expliquait que le train avait du retard. C'était une scène ubuesque. Il leur disait « The train is late », et ils étaient là « Oh !» Ils ne comprenaient pas, tu vois, je te jure. Incroyable.
Khal Kassidi, une Marocaine qui avait des flatulences, a causé l'atterrissage d'urgence d'un avion.
Mais non, c'est n'importe quoi. Des toilettes dans un avion, donc tu vas aux toilettes.
Non, des gaz, quoi. Des
gaz, bah tu vas aux toilettes, non ?
Eh ben pas elle.
C'était un avion. C'était pas des gaz, c'était autre chose.
C'est une vraie info, c'est une Marocaine qui était dans un avion d'une compagnie que je ne vais pas citer.
Elle a quoi ?
Qui faisait un vol entre Dubaï et Amsterdam, qui a dû atterrir d'urgence à Vienne.
Dans ce cas, ça allait au tout le voyage.
Bah en fait, la dame ne se retenait pas. Et ça a dérangé sa voisine.
Donc, Mdarba. Avec une autre Marocaine.
Crépé le chignon. Deux Marocaines ont été débarquées de l'avion à Vienne après un atterrissage d'urgence de l'avion.
Quelle belle réputation.
Gelkalesh, le karma, j'ai chemin fesse.
Ça, c'est un slogan qui se compte dans les matchs de foot.
C'est surtout une histoire mythique.
C'est une histoire mythique, oui. Donc, ils ne sont pas partis parce qu'ils allaient être relégués ou là, un truc comme ça. Et ben, c'était avec Tétouan.
L'info que j'ai, c'est que parce que le car passait par Rabat, qu'il a demandé sa route. Et il est jamais arrivé en fait.
C'est pas vrai, il y avait une combine dans ce truc là. Ils allaient être relégués, et c'était inenvisageable d'un point de vue qu'ils soient relégués.
Donc le car n'est jamais arrivé.
C'est
effectivement une fausse information. Dernière info, et tu vas me dire si c'est vrai ou faux.
Ouais.
Un bateau était garé en plein milieu du carrefour du croisement des boulevards Zartoni et Rodani à Casablanca.
À quoi ?
Un bateau.
C'est un témoignage de quelqu'un qui a une chèche, mais... Allah, je suis le bateau.
Je te jure que l'image, quand j'ai trouvé l'info, il y avait l'image. En fait, il y a quelqu'un qui a perdu le bateau, mais la remorque, et a priori, il ne s'en est pas rendu compte.
Il a laissé le bateau.
Il est parti. Et on voit le bateau se faire remorquer par un dépannage.
Et voilà.
Tu vas me donner ton téléphone ? On va voir si les gens qui se sont abonnés à ta page ont eu des questions pour toi. Et alors, on va voir les questions rapidement.
Allez, c'est parti.
Première question. Anna Gawria, ayant un projet au Maroc, je cherche une célébrité et ai envie de collaborer.
Bah écoute, viens. Collaborer pourquoi ?
Mais je sais pas. Les tournées ramadanesques, c'est un kiff ou bien ? C'est parce que t'as perdu un pari ? Bravo, you rock.
Non, 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 parce que les gens aiment. Ramadan, c'est un peu le mois des humoristes aussi, hein, tu vois. Je pense que.
Il y a une saisonnalité de l'humour au Maroc.
Ouais, ouais, il y a un truc dans la tradition marocaine de l'humour pendant Ramadan, parce que c'est aussi que le soir, il n'y a pas grand chose à faire. Et puis, c'est un moment où les gens peuvent se retrouver en famille. Et puis, je pense que la sortie au théâtre, elle se prête bien à ce mois-là. Donc, ce n'est pas du tout une contrainte. Moi, j'adore Ramadan, en fait. J'ai toujours aimé ce mois depuis que je suis petit. C'est un mois où il y a de la communauté, on voit les amis, on voit la famille, le
fton. Et convivialité.
Il y a un truc convivial, Ramadan, que j'aime beaucoup et qui se prête au théâtre. Donc, pour moi, pas du tout. C'est vraiment un kiff de Ramadan.
Il y a deux questions auxquelles tu as déjà répondu. C'est est-ce qu'un nouveau spectacle est prévu? Ça, on l'a dit. Est-ce que vous allez sortir un DVD de votre spectacle? Bon, on va le capter, peut-être qu'on va pas sortir le DVD.
Non, non, pas de DVD, mais je sais pas si je peux parler de ça en avant-première. Le spectacle sera diffusé sur 2M en fait. Il y aura une diffusion ou deux sur 2M, et ensuite, bien évidemment, il sera disponible sur YouTube. C'est pas la peine
de pirater
ou d'aller sur un DVD. Je le mettrai.
Il y a quelqu'un qui te connaît bien qui dit ça fait quoi de se mettre aux stories?
C'est bien.
Ton sketch qui te fait le plus kiffer?
Honnêtement, ça dépend des soirs. Je prends un kiff. Parfois sur Badia, je prends un kiff. Je prends un kiff sur le taxi aussi. Mashallah, sur Abdelkrim, je prends vraiment un kiff. Je les aime tous, hein. Moi je les défends tous de la même manière. Mais
deux dernières questions qui sont un peu la même. C'est, on veut que tu refasses le spectacle à Paris. Est-ce qu'il y a une tournée en Europe bientôt?
Non. Non, il n'y a pas de tout. Non, c'est fini.
Je vais invoquer quelques-uns de tes personnages. Je vais te la faire parce que tu ne vas pas y couper. Je vais demander à deux ou trois de tes personnages de nous dire au revoir.
Je te dis, c'est des moulins chérifs. C'est un plaisir. C'est un plaisir. C'est vraiment un kiff de parler avec toi. Tu es un mec bien, change rien à ta vie. Tu vois, accroche-toi, c'est très bien. Tu es un mec bien, tu vas réussir. Tu sais que tu galères, ça se voit sur ta gueule, mais il faut que tu t'accroches. Tu vois, mais je t'aime bien. Tu es un brave type. Allez, on y va.
Merci, Namas.
Bien évidemment, c'était un plaisir d'être avec vous Lyuma ce soir. Votre capacité à recevoir les gens, de l'accueil, vous êtes vraiment. D'ailleurs, si vous avez un poste pour manger, ma nièce qui est née, c'est vraiment plaisir.
Merci, Jalil.
Merci.
Jalil Tijani, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans le podcast aujourd'hui.
J'arrive pas à sortir du personnage.
C'est très, très bien, on va le garder. C'était un plaisir de te recevoir dans le podcast de Studio Code 30.
Merci. Je le dis vraiment, c'était un vrai plaisir. C'était un vrai kiff. Et j'adore ta manière de driver l'interview et j'adore tes questions.
Merci beaucoup, Jalil. On te retrouve très, très bientôt sur scène, j'espère. Au choc à l'intomélis, on a fait le podcast de Studio Code 30. On te l'a fait avec un autre créateur de contenu, Mnenel Timma. C'est là-haut.